des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Damien Leguet.
Marcel Gaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un intellectuel singulier qui s'est progressivement imposé dans le champ intellectuel en même temps que s'est imposée votre problématique centrale. Alors, comment définir cette problématique centrale ? L'analyse des pathologies actuelles de la démocratie et les voies et moyens de la constitution du sujet moderne qui est à la fois ébloui, fasciné et perplexe face à l'autonomie que lui a donnée la modernité. Alors, on peut dire que tout a commencé pour vous en 1980, il y a 30 ans, dans une préface que vous avez faite aux œuvres de Benjamin Constant, où vous avez tout de suite, semble-t-il, trouvé l'espace de votre réflexion, loin de toutes les modes idéologiques de l'époque, le marxisme, le structuralisme, le lacanisme. Et cet espace-là, que vous avez d'une façon ou d'une autre dégagé, s'est révélé être un continent que tout le monde, derrière vous, semble avoir exploré. Alors pourquoi êtes-vous singulier ? Singulier parce que vous n'avez pas le parcours universitaire de tout le monde, un parcours classique. Trois matières vous intéressent, la philosophie, l'histoire, la sociologie, et en même temps, vous vous en prenez à la sociologie qui ne remplit pas son office, dites-vous, depuis 1970, et vous êtes un peu un travailleur intellectuel à l'ancienne, peu à même de respecter, entre guillemets, les divisions disciplinaires, et donc vous êtes plutôt dans la lignée, disons, à l'ancienne, de Montesquieu, de Tocqueville, enfin de gens comme ça qui effectivement ne tiennent pas compte des divisions universitaires. Singulier aussi parce que vous venez plutôt du monde des revues, de la gauche non marxiste et non totalitaire et que vous dirigez depuis 30 ans, donc depuis 1980, la revue Le Débat. Singulier aussi parce que vous avez commencé votre carrière intellectuelle par votre opposition avec une personnalité importante de l'époque, à savoir Michel Foucault, considérant effectivement que dans son histoire de la folie, il y avait des, je vous cite, des lacunes invraisemblables et des erreurs impressionnantes, ce qui n'était peut-être pas une bonne manière de commencer sa vie intellectuelle à ce moment-là, du moins. Singulier aussi parce que vous considérez certains intellectuels médiatiques, Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, comme des intellectuels de peu de valeur et de peu d'importance, et vous ne vous en cachez pas. Singulier aussi par la sévérité de votre jugement ou de vos jugements sur l'école, sur ceux qui nous gouvernent, sur la démocratie, sur l'état actuel de l'université, pour reprendre l'objet d'un de vos derniers livres. Singulier parce que l'œuvre essentielle que vous faites semble être devenue une œuvre qui est au cœur des problématiques. Alors, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante, c'est que peut-on d'une façon ou d'une autre, dire de vous. Est-ce que vous êtes le Tocqueville d'aujourd'hui, le Cassandre d'une démocratie déliée de toute attache et donc au bord d'une forme de folie ? Ou est-ce qu'à travers tout cela, vous cherchez une nouvelle formule démocratique viable qui permette d'ajuster autrement le politique, le juridique et l'historique ?
Vous mettez la barre très haut, je ne me situerai pas. Au niveau où vous me placez, ce serait indécent. Je dirais tout simplement que ma démarche intellectuelle est commandée par le tout bête souci de comprendre ce que je vois et ce que je vis. Et je crois que si j'ai une ligne de conduite, c'est celle-là, je vais chercher mon bien là où il se trouve, sans me préoccuper de savoir si j'ai l'autorisation de la part des autorités académiques. J'ai le sentiment d'ailleurs de m'inscrire dans ce qui est le courant profond de la réflexion européenne depuis qu'elle s'est orientée sur le terrain social et politique. Vous citez Montesquieu, on peut y ajouter Constant, Tocqueville, dans la tradition française, mais aussi un auteur qui a été capital pour moi, Marx. Et je ne suis pas marxiste, je ne l'ai jamais été vraiment d'ailleurs. J'ai fait des efforts, j'y suis pas arrivé, j'ai compris que la bonne démarche était plutôt d'entreprendre cette fameuse critique du marxisme qui ne peut pas se limiter à simplement relever les erreurs de Marx et de ses épigones. Et au fond, c'est de là que je suis parti. C'est de l'effort pour trouver une grille de lecture alternative de l'histoire occidentale et de l'histoire occidentale à l'intérieur de l'histoire générale. Compte tenu des limites et des points aveugles évidents de l'analyse marxiste. Si vous voulez, c'est ça mon souci majeur, Vous citiez tout à l'heure 1980, qui se trouvait en effet une date assez représentative dans l'histoire récente. C'est une date très importante sur le plan de la vie intellectuelle, parce que c'est à ce moment-là que s'oppose un diagnostic pour caractériser le moment historique que nous vivons, le diagnostic de postmodernité. Eh bien, je dirais, j'en prends exactement le contre-pied. Au cœur de ce diagnostic de la postmodernité se situe en particulier l'idée de la mort des grands récits. Et ce qu'on met derrière ces grands récits, c'est en fait un récit, le récit marxiste, dont, paraît-il, puisqu'il s'est révélé faux, inapproprié, nous aurions affaire à une condamnation en bloc du genre lui-même. C'est très exactement le contraire qui me semble vrai. Le récit marxiste est effectivement faux. On peut montrer très bien pourquoi, indépendamment même de ses conséquences politiques. Il ne nous livre pas une bonne intelligibilité ni du passé ni du présent. Le récit marxiste est faux, eh bien construisons-en un autre, qui soit plus vrai, qui n'est d'ailleurs pas cette prétention absurde à la science, et à la science une fois pour toutes constituée du social et de l'historique, la prétention absurde, par rapport à un monde dont la définition est la création permanente de nouveautés, qui inévitablement dément les interprétations antérieurement reçues. Mais nous pouvons, et c'est ce que j'essaye de faire à ma modeste échelle, de reconstruire un récit sensé du parcours qui nous a conduits là où nous sommes, en partant des deux données fondamentales de la condition humaine et collective sur lesquelles le marxisme nous laisse sans voix. À savoir le politique d'un côté, la religion de l'autre. Les deux points sur lesquels le marxisme a évidemment échoué, ce sont ceux-là. D'une part, il ne permet absolument pas de comprendre ce qu'est la politique moderne en particulier, et le monde démocratique, qui devrait ne pas exister au regard de la contrainte économique. Et d'autre part, il ne permet absolument pas de comprendre ce qu'a été la religion dans le passé, et le présent des sociétés humaines, religion dont il donne une interprétation d'une superficialité décourageante. Alors que c'est, pour quiconque réfléchit un peu sur le passé humain, la donnée structurante majeure. Voilà. Et j'ai essayé, autrement dit, de rebâtir une intelligibilité de notre situation en réfléchissant sur l'histoire de ces deux données que notre société a des motifs essentiels de ne pas voir. Parce que si le marxisme est mort, il faut bien constater qu'il est mort politiquement, mais il est triomphant intellectuellement. Je dirais, même la droite politique du temps de Marx était idéaliste, ce qui suscitait sa critique véhémente. Eh bien, elle est devenue matérialiste. Elle ne croit plus qu'à une chose, qui est l'économie. La conviction majeure du monde dans lequel nous sommes et son illusion fondamentale. Nous sommes dans un monde où tout serait supposé s'expliquer par l'économie. Alors, il faut évidemment rendre compte du poids de cette illusion, mais notre monde ne s'explique pas par l'économie. On n'explique pas la démocratie par l'économie, plus dans les termes libéraux que dans les termes marxistes d'autrefois. On n'explique pas la religion par les intérêts des individus. Il y a là manifestement quelque chose d'autre. Alors il y a des théories sophistiquées qui essayent de relever ce déficit. Elles vont pas loin. Nous avons donc à sortir de cet économisme qui est la cible principale de tout mon travail.
Donc vous dites deux choses. Vous dites, un, effectivement, le marxisme comme régime et même comme idéologie dominante est morte, mais la pensée marxiste, c'est-à-dire le primat de l'économie, elle, ce marxisme-là est triomphant. Et en même temps, donc, vous insistez à la fois sur la priorité du politique et sur la constance de la religion. La seule chose qui est difficile à comprendre chez vous, c'est pourquoi pensez-vous que la postmodernité, qui laissait supposer qu'effectivement il y avait une absence de crédibilité du récit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas croire au récit, quel qu'il soit, le récit, le méta-récit, comme disait l'autre. Bon, pourquoi croyez-vous que cette croyance au récit, cette adhésion à un récit, à quelque chose qui dépasse l'individu, pourrait prendre en compte la priorité du politique et la constance de la religion ? Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on peut encore croire, alors que la postmodernité semble nous dire qu'on ne peut plus y croire, que c'est impossible d'y croire, pourquoi croyez-vous que l'idéologie est toujours présente par cette adhésion possible au récit, à la capacité d'avoir un récit commun ?
Je ne rangerai pas ce récit dans la catégorie de l'idéologie. Il me semble avoir tout simplement un effet d'intelligibilité qui le justifie. C'est uniquement le gain de compréhension que ce récit nous procure par rapport à la question d'où venons-nous et que sommes-nous qui le valide. Dans mon esprit, il ne s'agit pas d'une nouvelle fable pour les grands-enfants qu'il s'agirait de lancer dans la circulation à la place d'un autre qui s'est exténué. Je ne suis pas candidat à l'exercice d'un type de prophétie qui reprendrait la relève de celle que nous avons connue. J'essaye au contraire de déplacer l'attention d'un terrain idéologique à un terrain que je n'appellerai pas scientifique, mais philosophique, qui est tout simplement le terrain de l'intelligibilité rationnelle des faits historiques que nous connaissons, tels que nous pouvons les éclairer à partir d'une autre grille que celle qui est communément reçue.
Donc il y a du récit possible.
Oui.
Et donc une nécessité du récit.
Il y a une nécessité du récit parce que l'humanité se présente, je ne crois pas faire une grande révolution en le disant, dans le temps, comme une aventure. On peut décréter a priori que cette aventure est insensée et qu'on ne peut rien dire de ce qui s'y passe. Je crois exactement le contraire et je pense qu'on peut le montrer assez facilement. Il y a récit parce qu'il y a lieu de rendre compte d'un parcours de l'humanité très ancien, mais aussi très récent, qui peut se déchiffrer et acquérir une intelligibilité, prendre consistance à nos yeux d'acteurs, parce qu'il s'agit aussi de comprendre ce que nous devons faire et en vue de quoi ? D'une manière qui ne fait appel qu'à la simple raison. C'est l'histoire dans les limites de la simple raison. Voilà, si vous voulez parodier un grand titre, l'objet de mon travail.
Bon, alors justement, votre travail, venons-y, parce que contrairement à d'autres, nous ne vous avons pas invité en prenant prétexte de vos livres, mais justement en essayant de vous donner les moyens de pouvoir en parler. Donc vous sortez tout récemment le troisième tome de L'avènement de la démocratie, qui est un énorme projet en quatre tomes, donc. Premier tome, La Révolution moderne, 2007. Deuxième tome, La crise du libéralisme, 1880-1914. Troisième tome, donc, qui vient de sortir, À l'épreuve du totalitarisme, 1914-1974. Et puis, le dernier tome, qui devrait sortir bientôt, j'imagine, Le Nouveau Monde. Et vous renvoyez donc ce livre, ces quatre tomes, vous les renvoyez donc à un autre livre préalable à celui-là, qui est L'avènement de la démocratie aujourd'hui, renvoyant donc au désenchantement du monde, 1985. Donc, 1985, vous dites, à ce moment-là, l'emprise du religieux dans l'histoire des sociétés humaines, d'une part, et d'autre part, comment l'originalité occidentale procède de la sortie de la religion. Et vous proposez donc un certain nombre de modèles théoriques. Là, il semble que vous souhaitez réinscrire ou inscrire dans l'histoire, dans l'analyse de l'histoire et des différentes périodes, ce modèle théorique ou ces analyses que vous aviez faites en 1980-85. Alors, est-ce que vous validez donc ce que vous aviez dit en 1985 ou est-ce que aujourd'hui, avec cette odyssée de la démocratie, vous révélez d'autres éléments que ce que votre modèle, si je peux dire ça comme ça, de 1985 laissait à supposer ?
J'approfondis ce que je n'avais fait qu'esquisser en 1985. Et donc, en approfondissant, je mets en évidence des choses nouvelles, j'espère. Je ne me contente pas de me répéter. Mais je crois persévérer, peut-être dans l'erreur, mais en tout cas dans ma conviction, l'effort de poursuivre une idée qui demeure la même. Le désenchantement du monde avait pour objet de présenter une théorie générale de ce qu'ont été les rapports de la religion et de la politique dans l'histoire, à l'échelle globale. Donc c'était un livre très théorique et très philosophique. J'ai par la suite essayé de préciser l'esquisse que je donnais dans le désenchantement du monde, par rapport à ce qui est malgré tout l'objet principal de l'intérêt commun, c'est-à-dire le parcours occidental depuis la Renaissance et la Réforme, disons, ce qu'on appelle classiquement la modernité. Il me semble que la matrice d'analyse que j'avais bâtie dans le désenchantement du monde permet de proposer une vue plus précise, plus rigoureuse, à la fois plus théorique et plus factuellement éclairant de ce qu'est cette fameuse modernité, mot confus, mais indispensable, parce qu'il se passe bien là quelque chose, et on peut le préciser, en donner une idée nette, et par la même occasion, il me semble que cette grille de lecture permet de comprendre ce qu'est le mouvement démocratique caractéristique essentiellement des deux derniers siècles de la modernité dans ces avatars qui sont extrêmement déconcertants. On est très loin, là, d'une histoire linéaire, tranquille, et vers de l'humanité marchant vers la réconciliation avec elle-même. C'est pas comme ça que ça se passe. Il s'en faut de beaucoup. Voilà.
Alors, vous insistez dans ces quatre tomes, et particulièrement dans l'introduction donc, auquel je renvoie nos auditeurs, vous insistez sur deux éléments. Le premier, une forme d'inconscient de la démocratie moderne, la démocratie d'aujourd'hui s'éclairant par la structuration religieuse d'avant. Première chose. Et deuxièmement, la politique ou la démocratie serait une forme de remploi successif de la dite religion. Alors ma question est la suivante, c'est est-ce que pour vous la démocratie est impensable sans la religion ? Et pensez-vous que la démocratie soit la continuation de la religion par d'autres moyens, pour reprendre la formule de l'autre ?
Non, je ne crois pas que la démocratie soit la poursuite de la religion par d'autres moyens. Et ça serait somme toute parfait, facile, parce qu'à ce moment-là, on saurait comment faire, si je puis dire. On aurait une idée assez claire des lignes directrices. La démocratie est au contraire un mouvement d'avancer dans l'inconnu, d'un inconnu qui se révèle au fur et à mesure que nous sortons de la religion et où nous découvrons que l'humanité doit emprunter d'autres voies, utiliser d'autres instruments que ceux qui ont été depuis toujours les siens. Rien d'étonnant par conséquent à ce que cette histoire récente soit si laborieuse, si difficile. Nous essuyons les plâtres d'un monde entièrement nouveau à l'échelle de la totalité de l'aventure humaine. Et je crois qu'il faut éclairer la démocratie en éclairant d'abord, non pas ce qu'est la religion, mais ce qu'elle a été. La religion demeure, elle demeurera. Je suis prêt à le parier. Mais elle est devenue aujourd'hui quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était sur la plus longue durée du parcours humain. Pour nous, la religion, en tant que moderne, c'est une croyance qui s'accompagne de formes de collectifs. On se rassemble pour partager cette croyance et pour célébrer des rites et des cultes. Mais c'est un aspect important de la religion. Mais ce n'est rien au regard de ce qu'a été la fonction de la religion des origines de l'humanité, pour autant que nous puissions le savoir, jusqu'à une date tout à fait récente. La religion, cela a d'abord été le mode fondamental d'organisation des communautés humaines. C'est à cette question-là qu'elle répondait. C'était une manière d'être du monde humain social. Et pour comprendre ce que nous sommes, nous devons mesurer combien, depuis 5 siècles, nous échappons, et nous échappons de plus en plus dans un travail extrêmement difficile, à cette ancienne manière d'être du monde humain social. C'est dans ce miroir, et celui-là seulement, me semble-t-il, que nous pouvons nous déchiffrer. Tellement l'inconnu que nous affrontons nous est invisible spontanément. Nous vivons dans un monde de surprises permanentes. Au fil de cette histoire, dont surprise par rapport auquel le passé religieux nous permet de comprendre mieux ce que nous sommes exactement en train de vivre, c'est-à-dire l'invention d'une autre manière d'être de l'humanité et de la société.
Mais ça veut donc dire que votre compréhension des choses est par elle-même pas très moderne. Le moderne est celui qui instaure le neuf, la nouveauté, l'innovation, l'an zéro. Et donc vous vous dites, non, il faut regarder parce qu'il y a quoi, de l'inconscient dans la politique, il y a quelque chose qui est plus fort que la nouveauté que l'on pense instaurer. Vous voyez, votre analyse, elle n'est pas très moderne, au sens où vous pensez plus la continuité ou les jeux de miroir que la volonté qui, elle-même, instaure de la novation.
En effet, si le moderne, c'est celui qui pense qu'il peut se penser en ne tenant aucun compte de ce qui l'a précédé, je ne suis pas moderne. Mais j'ajouterais que ce moderne-là me paraît aveugle, sourd et idiot. Et je crois que nous en avons assez d'exemples sous les yeux pour penser que ce n'est pas la bonne manière d'être moderne. Précisément, je crois que ce que nous devons chercher, c'est une autre manière d'être moderne. Une autre manière qui consiste à se dire « nous sommes différents de ceux qui nous ont précédés, mais nous sommes le même ». Il y a bien quelque chose qui nous unit à ce qu'a été l'organisation du monde de tous nos prédécesseurs. Et ce serait d'ailleurs terrible d'imaginer une sorte d'humanité coupée en deux, où il y aurait d'un côté les modernes qui n'ont plus rien à faire, sinon à titre vaguement patrimonial, de ce qu'ont été les mondes antérieurs. On aboutirait d'ailleurs à une sorte de vision raciste terrible de l'histoire, puisqu'il y aurait ces anciens barbares qui comprenaient rien, qui ne savaient pas vivre en fait. Et puis nous qui aurions trouvé la martingale. C'est une vision atroce à tous égards. Et en plus, complètement trompeuse.
C'est pourtant celle qui domine quand même beaucoup.
C'est celle qui domine.
Surtout dans le jugement que nos contemporains portent sur l'histoire passée.
Absolument, absolument. Et c'est ce qui fait que nous sommes en danger d'une grande barbarie. Car une humanité moderne qui ne comprend pas l'humanité qui l'a précédée se voue à la pire espèce de barbarie qui soit, elle est incapable de se comprendre comme humanité. L'humanité étant le concept synthétique qui unit les anciens et les modernes. Qu'avons-nous en commun avec ceux qui nous ont précédés ? Nous en sommes différents, mais nous avons quelque chose en partage avec eux. Et ce quelque chose que nous avons en partage avec eux, ce sont les structures mêmes qui font que nous sommes des humains. Et nous avons une autre manière d'assumer ces structures que ceux qui nous ont précédés, mais elles sont les mêmes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs cette chose dont le mystère ne nous éveille pas suffisamment. Comment se fait-il, nous qui sommes si différents, nous puissions comprendre ces gens du passé, quand nous nous plongeons dans leurs textes, pourtant si loin, souvent de nos repères spontanés, quand nous lisons des sages chinois, des philosophes indiens, des grands auteurs, des traditions religieuses, au prix d'un certain effort, mais d'un effort extrêmement gratifiant, nous avons l'impression d'entrer dans leur monde. Il y a quelque chose qui continue de nous parler. C'est notre chance. Alors, questionnons ce commun.
Marcel Gaucher, merci. Donc, nous mettons un terme à ce premier entretien qui sera suivi par deux autres. Le deuxième entretien portera plutôt sur démocratie forte et faible, qui sont les deux premiers tomes de cet avènement de la démocratie, donc votre travail qui nous réunit aujourd'hui. Et le troisième entretien donc portera sur démocratie et totalitarisme, donc qui est le troisième tome de l'avènement de la démocratie qui vient de sortir, donc l'avènement de la démocratie à l'épreuve des totalitarismes. Marcel Gaucher, merci.